Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu l'infiniment bon, le tout miséricordieux. Merci de nous accueillir. Merci de ce partage. Alors, comme j'attendais un petit peu que mes chers amis prennent la parole avant moi, en réalité, je comptais sur leur inspiration, puisque chaque fois que l'on entend une tradition différente de la sienne s'exprimer dans l'intériorité, il y a comme quelque chose qui fait écho, un jeu miroir qui éveille tout un ensemble de parties, de régions, de l'intériorité, de sa propre démarche. Et c'est très souvent un ressourcement d'inspiration, d'une grande aide et d'un grand intérêt. C'est une sorte de jeu de miroir, de réveil. Et c'est cela, bien sûr, qui fait le sens de l'existence de ces différentes traditions de sagesse dans le monde, puisque ce n'est pas à travers la concurrence des égaux et de celle qui va se prétendre la prééminente, la plus importante, puisqu'en faisant cela, on est à l'inverse même de l'esprit de ce que l'on souhaite faire ou servir. Mais c'est au contraire dans cet esprit d'être au service, d'être dans cette générosité, dans ce don. Et toute tradition religieuse, dans son esprit le plus profond, n'a d'autre signification que de permettre cette transformation de soi. C'est un chemin de transformation. Alors, les soufis diront par exemple que ce chemin, il est comme quelqu'un qui a entendu parler de la mer et qui ne l'a jamais vue. On suppose que nous ne sommes pas à notre époque où on peut tout voir à travers les technologies modernes de communication, mais quelqu'un qui a une autre époque, a entendu parler de la mer, mais qui ne l'a jamais vue. Simplement, lorsqu'il rencontre beaucoup de gens qui lui paraissent des gens sincères, des gens crédibles, il commence à acquérir la conviction que cette mer dont il a entendu parler existe. Et dans les religions, c'est un peu la dimension de la foi. On croit que quelque chose existe, mais qu'on n'a pas vu. Mais on y croit parce qu'il y a suffisamment d'éléments qui viennent à un moment nous donner la conviction profonde que cela existe, même si on ne l'a pas vu. On peut regarder des livres, on peut regarder des cartes, on peut développer un savoir, mais ça reste du domaine de la croyance. Et puis un jour, on décide de faire le voyage. On décide de se lancer dans un chemin pour aller vers cette mer, cet océan. Et à partir de ce moment-là, eh bien, généralement, on a besoin de personnes qui connaissent le chemin, qui ont déjà fait le voyage, qui peuvent être des compagnons de voyage. Ils ne vont pas le faire à notre place. Ils ne peuvent pas le faire à notre place. Mais ils peuvent, avec leur compagnonnage, décider d'aller plus loin. D'aller plus loin dans la vision de ce à quoi on croit, de la réalisation de ce à quoi on croit. Et ce chemin, c'est le chemin de la transformation. En réalité, ce chemin n'existe qu'en nous-mêmes. C'est le chemin de l'âme. Et donc, on va traverser des différents paysages, passer parfois par des endroits où tout semble simple, tout semble beau, parfois passer par des chemins escarpés, extrêmement difficiles, par des obstacles qui nous pourront nous sembler insurmontables, et continuer jusqu'au moment où on commence à sentir l'odeur de la mer. On commence à sentir l'odeur de l'océan. On commence à sentir les signes de cette existence de la mer. Quelque chose dans le regard des gens, quelque chose dans le paysage. Et nous continuons. Ces effluves, cet air, ces respirations nous alimentent, nous nourrissent jusqu'à ce qu'on parvienne à la mer elle-même. Et là, il y a ce que les traditions vont appeler l'expérience contemplative. Nous ne sommes plus dans la croyance, nous sommes dans la contemplation. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on croit, c'est quelque chose que l'on voit. Et puis, il y a une troisième étape. Il y a une troisième étape qui est celle de se plonger dans la mer, de s'immerger dans la mer, de s'immerger entièrement dans la mer, d'en avoir la pleine expérience, finalement de disparaître dans la mer. D'être dans cette union avec la mer. Et la mer, en l'occurrence, et l'océan, n'est rien d'autre que le symbole de l'être suprême. Le symbole de, finalement, de Dieu, de la divinité, qui, et notre réalité la plus profonde. Donc c'est un voyage que l'on fait vers soi-même, qui est notre réalité la plus profonde, et donc nous disparaissons dans cette réalité. Nous devenons cette réalité. C'est ce que les soufis vont appeler l'expérience de l'annihilation dans l'être divin. Et cette expérience de l'annihilation dans l'être divin, elle va s'exprimer comme dans une relation entre un amant et une aimée, ou un amant et un aimé. Il y a là un désir profond qui est celui qui va nous porter dans ce voyage. Et ce désir profond, c'est le désir qui nous habite dans notre intériorité la plus essentielle, de retrouver notre nature, de retrouver notre nature la plus profonde. C'est le désir de l'être pour lui-même. Et cette expérience-là, elle va être exprimée dans les termes de la tradition de l'islam et du soufisme par un hadith, un propos du prophète qui dit, en parlant de Dieu, en parlant de cette réalité qui habite dans notre être le plus profond, cette réalité s'exprimant, elle dit, j'étais un trésor caché. J'étais un trésor caché. J'ai aimé à être connu. J'ai aimé à être connu. J'ai alors créé le monde afin que le monde me connaisse. J'étais un trésor caché. J'ai aimé ou bien j'ai désiré être connu. J'ai alors créé le monde afin que le monde me connaisse. C'est-à-dire qu'il y a là, au fond de chacun de nous-mêmes, la nostalgie du divin à se connaître. Mais se connaître comment? Se connaître à travers la création du monde. Et qu'en définitive, toute la destinée de l'homme n'est rien d'autre que de l'amener à ce que se réalise à travers lui cette connaissance du divin par lui-même. L'homme est une sorte de médiation, de médiateur. Mais l'homme, dans l'état où il est habituellement, il est dans une sorte d'opacité. C'est comme un miroir qui est opaque. Et tout le travail de la transformation de soi, tout le travail spirituel de la transformation de soi, va consister tout simplement à polir ce miroir de l'âme, à le polir jour par jour, instant par instant, à polir ce miroir de la conscience intérieure, ce miroir de l'âme, de manière à ce que le divin puisse se voir lui-même dans l'homme. De manière, comme les disent les soufis, à ce que l'un puisse rejoindre l'un. De manière à ce que puisse se réaliser cette unité fondamentale de l'être, qui est la réalité la plus profonde, mais qu'on ne perçoit pas d'ordinaire. Et donc, le chemin de la transformation, c'est enlever les voiles, enlever les taches qui viennent rouiller ce miroir. Ce n'est pas rajouter quelque chose, ce n'est pas acquérir du savoir, c'est enlever ce qui est en plus. Enlever ces voiles, et quand on parle des voiles, eh bien, c'est précisément tout un ensemble de conditionnements psychologiques qui font que nous ne sommes pas à même de laisser cette lumière se réfléchir en nous. Le conditionnement psychologique, par exemple, de la vanité, de l'orgueil, de l'arrogance, de l'ignorance, de l'avidité, de tout un ensemble de choses qu'on considère ordinairement comme des défauts moraux. Mais plus que des défauts moraux, ce n'est pas cela qui est le plus important, ce n'est qu'un aspect des choses. C'est que ce sont surtout des écrans, des voiles qui ne laissent pas ce miroir refléter, ce miroir de l'âme refléter, cette réalité divine. Et c'est pour cela que dans toutes les traditions spirituelles, on va parler d'illumination progressive. Parce qu'au fur et à mesure que l'on va frotter ces tâches, que l'on va enlever ses voiles, dissiper ses voiles, cette lumière va se diffuser, va devenir de plus en plus illuminative et va nous transformer. Jusqu'au moment où il y a cette contemplation du divin par lui-même, c'est-à-dire la réalisation de l'unité la plus profonde, à travers l'âme qui devient une sorte d'œil par lequel le divin se contemple lui-même. Et il y a là, disent les soufis, à ces moments où, lorsque ces effluves de cette proximité de l'unité commencent à se manifester, il y a là quelque chose qu'on ne peut plus dire avec les mots, qu'on ne peut plus décrire, qui devient un secret. Et le poète soufi dit, « Je suis entré en retraite avec mon bien-aimé, et il y a entre nous un secret, plus fin que la brise lorsqu'elle passe. » Je suis entré en retraite avec mon bien-aimé, et il y a entre nous un secret. Le secret de l'unité, c'est quelque chose dont personne ne peut parler, parce que parler de quelque chose suppose qu'on est déjà deux. On est dans l'indicible. Mais la différence avec le niveau de la croyance et le niveau de l'expérience, c'est de tout ce dont on parle, c'est du domaine de ce que les soufis appellent la saveur. C'est-à-dire de ce qui se goûte, de ce qui se vit. Et aussi de la réalisation des différents degrés qui sont les différents passages, les différents degrés de transformation de notre ego qui passe, qui est toujours une seule et même réalité. Simplement, elle va se transformer pour cette même réalité, passer de l'état de l'opacité la plus grande à l'état de la transparence la plus totale. Et on passe par ce que les soufis appellent l'âme tyrannique, despotique. N'est-ce pas? L'ego que l'on connaît tous et qui est notre lot humain, le plus naturel, bien sûr. C'est une première étape. Mais après cela, il y a une étape où on va essayer de réagir à ces tendances de l'ego. Donc il y a ce qu'on peut appeler une sorte de combat envers soi-même, de travail que l'on accomplit sur soi. Et ça, c'est la phase morale qui a été instituée par toutes les religions, n'est-ce pas, du bien et du mal, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable, et qui est nécessaire. Et que les soufis appellent, en prenant une terminologie coranique, l'âme qui se blâme. Et puis, il y aura une autre étape. Et cette troisième étape, c'est celle qui va nous faire rentrer dans la saveur. C'est la voix du cœur. Pourquoi? Parce que c'est la voie de l'inspiration. C'est l'âme inspirée. C'est-à-dire qu'il y a un moment de transparence de l'âme où ce n'est pas simplement par la réflexion, par les lois, par les règlements, par dire ça c'est possible, ça il ne faut pas le faire, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui nous vient naturellement, intuitivement, on sent ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et on le sent à l'intérieur de soi. C'est pour cela qu'on appelle cela la voix du cœur. Et quelquefois, ce qui est juste peut même être en contradiction apparente avec les lois extérieures. C'est ce qui s'est passé pour Jésus lorsqu'on lui a apporté la femme adultère et qu'on lui a dit: alors, pourquoi, puisque vous êtes un rabbi, pourquoi vous n'appliquez pas la loi? la loi biblique de la lapidation. Ça, c'est la loi extérieure. Et de certaine façon, c'était un piège, évidemment. C'était la bonne pensance, la bonne conscience, puisque c'est la loi. À quoi il répond? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Regardez-vous vous-même. Il joue son rôle de miroir. Il y a des formes de loi qui sont à l'inverse, même en se présentant sous forme de loi, de tout esprit et de toute spiritualité. Et ça, on ne peut le savoir que si l'on rentre dans la dimension du cœur et que l'on ressente par une toute autre approche qui est celle de ce que nous dit notre propre cœur, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. On dit qu'un jour, quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que la droiture? Ou bien le prophète aurait dit, tu es venu m'interroger sur la droiture. Et donc, il lui a dit, oui, qu'est-ce que c'est que la droiture? Et le prophète répond, interroge ton propre cœur. Interroge ton propre cœur. Si ce que tu ressens profondément est ce en quoi ton cœur s'apaise, alors tu es dans ce qui est juste. Mais si ce que tu fais, tu sais que ton cœur ne s'apaise pas à ce que tu fais, tu le ressens, alors tu n'es pas dans ce qui est juste, même si tous les autres autour de toi s'accordent à te dire le contraire. Et c'est toujours important, cette voie de la spiritualité, qui n'est pas une voie de conformisme social. Il n'y a rien de pire que les égos collectifs. Déjà, l'ego individuel, c'est déjà assez difficile à gérer. Mais quand ça se démultiplie et que ça se présente sous l'aspect de la défense, de la bien-pensance, ça peut devenir désastreux. Et donc, c'est en cela que, puisque je ne vais pas parler davantage, on aura d'autres occasions pour approfondir les différents éléments qui ont été évoqués. C'est en cela que les soufis ont parlé que la voie spirituelle est comme la voie du chevalier solitaire, de la chevalerie spirituelle. Puisque c'est qu'on appelle la futuwa, qui est la voie de cette vigueur intérieure de l'âme, de cette jeunesse de l'âme, de cette force de l'âme, qui est à même de pouvoir ressentir dans son relation avec Dieu, avec la vérité, être dans ce qu'elle ressent comme étant juste, être dans le don, dans l'amour, dans la générosité, dans la compassion, être aussi en rupture avec tout ce qui simplement est extérieur, artificiel, conventionnel. Donc être dans cette dimension qui amène à une autre forme de connaissance. Et donc, toute société, toute démarche a besoin d'être renouvelée par ces chevaliers solitaires. Pourquoi solitaires? Ce n'est pas parce qu'ils sont seuls, parce que l'expérience spirituelle ne peut se vivre que seule, en définitive. Elle ne se vit que dans l'intimité de l'âme. Et tout éclairage, toute interprétation, parce que il y a dans le mot chevalerie aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la liaison aussi entre la spiritualité et l'action. La chevalerie, c'est à la fois être dans le monde des valeurs et comment ces valeurs peuvent être exercées dans le monde. Et je crois que cet éclairage qui vient de ces personnes qui sont dans l'âme inspirée, dans l'inspiration de l'âme, peuvent et doivent en réalité et ont toujours été des éclairages essentiels par rapport à chaque temps. Parce que, encore une fois, Jésus a répondu une réponse à un moment donné parce que c'était la réponse qui était nécessaire dans l'instant. Or, aujourd'hui, quelles sont les réponses qui sont nécessaires dans l'instant dans lequel nous vivons? Voilà la voie de la chevalerie.
Merci beaucoup. La madonie.